L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 277e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ce soir, pour une fois, je suis avec Pierre.
Bonsoir.
Après deux émissions, rediffusion plus une émission où Pierre a assuré brillamment l'animation à lui tout seul. Cette fois-ci, on est bien tous les deux pour ce qui est la dernière émission de l'année, puisque après ce sera les vacances de Noël, vacances plus ou moins bien méritées, on vous laissera décider. En tout cas, on va vous présenter l'actualité des deux semaines écoulées. On va commencer avec des actualités internet et vie privée. On va parler de Microsoft, tiens, alors on entre dans le vif du sujet. Windows Recall continue d'avancer doucement. La préversion désormais disponible sur les PC Intel et AMD Copilot, Pierre.
Copilot Plus, attention, ils font dans les dénominations compliquées, hein, attention. Donc autant dire qu'il n'y a pas grand monde qui a des machines compatibles pour l'instant avec ce truc, mais ça progresse, ils n'ont toujours pas abandonné l'idée de le faire. Alors je ne sais pas ce que ça va donner pour le faire en Europe, parce que... La loi européenne est quand même un poil plus stricte pour le respect de la vie privée que la loi américaine. Mais donc, petit rappel sur ce qu'est Windows Recall. Un rappel sur Recall. Pour les plus anglophones, c'est une blague subtile. Donc, Windows Recall, c'est une fonctionnalité que Microsoft développe pour Windows à base d'intelligence artificielle, évidemment, qui consiste à ce que Windows enregistre tout ce que vous êtes en train de faire et, en fait, conserve un historique dans lequel vous puissiez rechercher. Et donc, Windows enregistrerait des captures... Oui, Windows Recall, en tout cas cette fonctionnalité, enregistre, effectivement, c'est le cas aujourd'hui, des captures d'écran en permanence de ce que vous êtes en train de faire, les stocks, les analyses, pour pouvoir faire derrière de l'extraction de texte, pour pouvoir faire des recherches. Par exemple, vous avez travaillé sur tel document, vous tapez 2-3 mots-clés et vous retrouvez le document en fonction du moment sur lequel vous avez travaillé dessus, etc. C'est une fonctionnalité qui a l'air très intéressante. Mais par contre, il y a des très très grosses implications en termes de sécurité et de vie privée, plus les implications matérielles. Donc là, les implications matérielles, c'est l'avoir une puce, on va dire, qui est conçue pour l'intelligence artificielle. Faudrait que je fasse un petit peu une déquilisation à l'occasion sur ce qu'est un NPU, un GPU, un CPU, parce que ça devient un peu à la mode, et là, ça va devenir compliqué d'expliquer ça juste dans une brève. Mais voilà, il y a certains matériaux, enfin certaines puces qui sont nécessaires, tous les ordinateurs ne sont pas compatibles. Pour le coup, il faut vraiment des ordinateurs assez récents pour avoir ça. Mais par contre, Windows Recall continue d'avoir d'assez gros problèmes, hein, pour ceux qui l'utilisent. Notamment, là on s'est rendu compte qu'il continuait d'enregistrer, alors que Microsoft avait annoncé le corriger, il continuait d'enregistrer des numéros de carte bancaire et des numéros de sécurité sociale. Ce sont des données un poil sensibles, elles sont enregistrées et stockées sur des serveurs Microsoft. Elles ne sont pas stockées sur votre ordinateur en local. C'est un problème. Donc, à suivre, est-ce que Microsoft va corriger tous ces problèmes-là ou est-ce qu'ils vont juste laisser faire parce que, c'est pas très grave de stocker des numéros de carte bancaire comme ça dans la nature. À suivre.
On parle toujours intelligence artificielle et son utilisation aux impôts. Je ne savais pas que le ministère des Finances l'utilisait.
Mais si, on en parlait de la détection des piscines.
Ah oui, c'est vrai.
Tu t'en souviens pas, la détection
ouais,
des piscines?
Ouais, je pensais pas à cet exemple. Oui, mais je pensais à intelligence artificielle, je pensais plutôt les GPT et compagnie
Oui,
qui servaient le chat. En tout cas, le personnel du ministère des Finances n'est pas très content, a priori, de cette utilisation, Pierre.
Tout à fait, la DGFiP est l'un des ministères, si ce n'est le ministère qui a le plus déployé l'intelligence artificielle. Donc là, d'après la Cour des comptes, début 2024, on était à 3 systèmes avec des technologies d'intelligence artificielle déployées, 3 en cours de développement et 7 envisagés ou en étude de faisabilité. Donc l'intelligence artificielle, ils aiment ça. Le problème, c'est que, les agents ne sont pas franchement fan de la solution déjà, parce que oui, il y a de l'intelligence artificielle aussi utilisée en interne et donc dans les outils proposés aux agents. Déjà, 85% des agents estiment que l'utilisation de l'intelligence artificielle ne leur fait pas gagner de temps. Plus de 50% d'entre eux signalent que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur mission génère des erreurs, voire beaucoup d'erreurs. Il y a un tas de problèmes. Donc, un autre exemple, donc le projet ciblage fraude et valorisation des requêtes, en fait un système de data mining, donc de collecte de données, alors je suppose en ligne ou vu que ça concerne des entreprises, je suppose sur les différents services de l'État qui collectent ce genre d'informations, plus complété par les informations en ligne, des informations sur les dirigeants de l'entreprise, ce genre de choses. 52% des entreprises contrôlées l'ont été suite à une programmation par data mining, mais ce n'est à l'origine que 13% des droits et pénalités de recouvrement. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de faux positifs.
Ouais, un contrôle, ça veut dire que c'est une suspicion. Enfin, ça ne veut pas dire forcément que tu es coupable.
Non, mais c'est-à-dire
quand il y a des critères qui laissent.
Quand le contrôle est ciblé, comme ça, le but de ces outils, c'est de faire que les contrôles soient tous entre guillemets positifs. Et donc là, finalement, l'outil a-t-il vraiment apporté des choses? C'est pas sûr. Et en fait, les agents ont l'impression, considèrent que ça n'a pas amélioré ni le service en interne pour les agents, ni le service rendu aux usagers. Et du coup, le bilan est-il vraiment positif? C'est la question. Après, c'est les limites. C'est un questionnaire qui a été auquel des agents ont répondu, mais il n'y avait aucune obligation de réponse, donc tout le monde n'y a pas répondu. On peut questionner l'étude, etc. Mais c'est bien de ne pas avoir que des avis. L'IA, c'est magique, il faut tout faire avec l'IA.
Parlons de contrôleurs. Là, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est dans la recherche algorithmique. On avait parlé donc de la quadrature du net qui avait ressorti que la CAF ciblait en priorité les plus modestes dans ses contrôles. Cette fois-ci, c'est la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie.
La Sécu.
La Sécu, pour faire simple. Qui contrôle des familles et qui bénéficient donc de la complémentaire santé solidaire gratuite. Je pense que ça doit être le nouveau nom de la CMU complémentaire. Je dirais ça. Des familles qui ont le droit sont bien légitimes à avoir cette prestation. Qui sont les plus contrôlées? Les femmes de plus de 25 ans avec un enfant. Les femmes seules, de toute façon, donc les mères célibataires. Donc, les publics les plus fragiles sont l'algorithme. Donc, alors, la couverture du net nous dit qu'ils l'ont pu la consulter suite à une erreur. Alors, on n'a pas plus de détails quant à cette fameuse erreur. C'est corroboré également par un PowerPoint auquel ils ont eu accès, où c'était clairement dit que c'était ce genre de. Donc, ces familles les plus précaires qui étaient les plus visées, enfin, qui étaient le public prioritaire, non pas pour être aidé, mais pour être contrôlé. Et la quadrature du net rappelle également au niveau chiffres que 1% il n'y a que 1% de ces contrôles qui ont vraiment servi à quelque chose. En tout cas, ils ont recouvert que 1% du montant des aides, alors qu'il y a un taux de non-recours qui est estimé à plus de 30%.
Et juste pour revenir sur un point que tu disais, la façon dont la quadrature du net a eu accès à l'algorithme, en fait, c'est expliqué sur les documents. La quadrature du net a fait ce qu'on appelle une demande CADA, demande d'accès aux documents administratifs. La CNAM a envoyé des documents en caviardant, en cachant les éléments, sauf qu'ils ont mal caviardé, et donc la quadrature du net a juste tout simplement contourné le caviardage. Donc je suppose que sur des documents PDF, ils ont mis des blocs noirs devant le texte, et il suffisait d'enlever les blocs noirs pour lire le texte. Voire il suffisait de sélectionner avec la souris. C'est une erreur assez fréquente.
Oui, c'est connu, c'est pas la première fois que j'entends parler sur le cas. Donc c'est en 2022, donc le directeur de l'assurance maladie annonçait que la fraude à cette aide complémentaire était estimée à 1% de son coût. Alors que le non-recours, c'est 30% du coût.
Voilà.
On part en Russie, tiens, pour une fois.
Oui.
Vous connaissez la grande muraille chinoise, hein, le grand firewall.
Oui.
Et donc,
en
gros, bah, c'est le fait que les Chinois ne peuvent avoir accès qu'à leur internet.
Qu'un sous-ensemble d'internet hautement contrôlé par l'État.
Et ben, la Russie semble expérimenter ce genre de choses. Hein. Le grand déconnexion.
Ça a été un peu plus violent même que le grand firewall.
Ouais,
chinois,
c'est la grande déconnexion.
C'est ça. Donc, petit rappel, alors, parce qu'il y a eu des titres notamment mis en avant par la Russie pour dire qu'ils testaient leur Internet souverain. Alors, je ne sais pas qui a traduit ça en Internet souverain les premiers, hein, mais soyons clairs, le principe d'Internet, c'est connexion entre les réseaux. Si d'un coup, votre réseau, ça devient un réseau national, ben, en fait, c'est juste, c'est plus Internet, c'est un réseau national, c'est tout. Il n'y a pas de question de Internet souverain.
C'est un intranet souverain.
Si tu veux. Voilà. Et donc, petit rappel des faits, dans des pays hautement démocratiques comme la Chine, l'Internet est très très contrôlé, puisque ben, c'est là où les pires perversions démocratiques peuvent être mises en œuvre avec des discussions entre citoyens qui ne devraient pas avoir lieu sur des sujets qui n'existent pas. Voilà. C'est le principe un petit peu chez nos chers voisins démocrates. Et donc, ben, le principe en Russie est un petit peu le même. En fait, il y a quelques années, ils ont eu extrêmement peur lors de certaines révoltes, on va dire, lors de grandes manifestations, notamment de 2011 à 2013. Et donc, depuis, ils cherchent, ils travaillent sur ce projet de se déconnecter d'Internet. Et ben, l'une des raisons pour lesquelles ils ont fait ce test, parce que là, ils ont vraiment testé, ils ont commencé dans certaines régions, des
républiques autonomes, donc il y a des
conflits. Le Daghestan, la Tchétchénie, l'Ingouchie.
Oui.
Et donc ils ont décidé de déconnecter complètement Internet. Les gens n'avaient plus accès que à des services locaux. Mais donc,
c'est pas en France que un président déciderait d'interdire un service.
Alors, dans le cas de la Russie. Il y a une différence avec la France aussi, il y a une question aussi de distance qui joue. En France, le coût en fluidité de connexion pour se connecter à un service, que ce soit aux États-Unis, ça se sent, en Angleterre, ça se sent pas. La Russie, avec la distance, se connecter à un serveur aux États-Unis ou en Angleterre, ça se sent. Et donc, il y a beaucoup plus quand même de services déployés localement, même si c'est des antennes, on va dire, de services américains. Là, leur but, si j'ai bien compris, la déconnexion en question n'a concerné que des serveurs externes à la Russie.
Et quand tu parles de distance, c'est vraiment les...
Ah, je te parle de distance physique.
C'est-à-dire la longueur de fibre optique ou bien oui. Les routeurs qu'il peut y avoir entre les deux qui finissent par...
Ah non, la longueur de fibre optique, je suis désolé, la vitesse de la lumière, c'est pas une vitesse si grande que ça. Quand t'as besoin de quelque chose fluide, 100 millisecondes, c'est déjà beaucoup pour un utilisateur final. Et 100 millisecondes, mine de rien, si tu essayes... Depuis ne serait-ce que la France te connecter à un serveur à La Réunion qui est en France, mais depuis la France métropolitaine, ben tu le sens passer. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important sur Internet. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui mettent des serveurs partout dans le monde. Si on parle d'un Netflix, par exemple, ou Apple, ou Google, ou autre, toutes ces grandes entreprises, ben, ils ont mis des serveurs partout dans le monde pour que ce soit rapide d'accès partout dans le monde. Donc ça veut dire que cette déconnexion, elle n'a pas impacté forcément tous les services, mais par contre, il est prévu de bloquer pour eux directement des hébergeurs comme Amazon Web Services, GoDaddy, HostGator. Et ça, par contre, l'impact serait assez immense. Et l'une des stratégies derrière ça, c'est aussi une stratégie économique qui vise à ce que toutes leurs entreprises, au lieu de passer par des serveurs certes hébergés en Russie par des grandes entreprises américaines, leur but, c'est aussi un but nationaliste que ben, tout soit sur l'économie fermée russe.
Ouais. Au final, ils appliquent même les sanctions en fait, appliquées par l'Union européenne, par les États-Unis, parce qu'ils ont retiré leur bille, ils ont demandé à leur entreprise d'arrêter le commerce avec la Russie. Au final, ils le font eux-mêmes.
C'est ça, mais le principal gain pour eux là-dedans ne sera pas économique, évidemment. Leur principal gain, ce sera un meilleur contrôle de la population et une meilleure censure.
On part dans un pays qui est un petit peu plus démocratique, pour le moment. Pas encore là.
Hein. Il y a encore un peu de temps.
Il est président élu, Donald Trump. Donc les Américains ont démocratiquement élu un fasciste. Bon, bah, écoutez, tant pis. Donc, Et Donald Trump n'est pas forcément très ami avec les principes de régulation.
Le Donald Trump nouveau n'est pas différent de l'ancien. Non.
Disons que là, il affiche encore plus clairement la couleur, donc pas de régulation. Il s'est donc nanti de Elon Musk, hein, qui veut sabrer dans les dépenses de l'État, notamment les dépenses de régulation. Hein, on se demande pourquoi. Bizarrement, je pense que le budget de la NASA ne sera pas impacté. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, bon, hein, Monsieur Musk, ses fusées, il ne les a pas développées tout seul non plus. Hein. Il y a un petit peu eu d'argent public. Donc, Pierre, à quoi s'attendre donc à la FTC ?
La FTC, donc, petit rappel, la Federal Trade Commission, qui est en charge de la concurrence et qui a fait beaucoup de travail ces dernières années, bah, notamment aussi sur tout ce qui est régulation du numérique.
Si je ne m'abuse, est l'opérateur du .com.
Aussi, oui, c'est vrai, je crois.
Via l'ICANN, il me
semble. Ouais, via l'ICANN.
Enfin, l'ICANN est une émanation de la FTC, je crois.
C'est ça. Mais donc, l'autorité en charge de la concurrence, mine de rien, elle est assez importante, puisque bah, elle a un pouvoir... alors, ce n'est pas le même pouvoir que la FCC, l'équivalent de l'ARCOM. L'équivalent de l'ARCOM aux États-Unis. Mais les lois antitrust... Enfin, le travail de la FTC... C'est compliqué les acronymes comme ça. Du coup, le travail de la FTC a été assez important dans le monde de la technologie ces dernières années, puisque bah, ils ont quand même poussé à pas mal de modération finalement sur bah, les grands réseaux sociaux, sur bah, le fait de entre guillemets protéger les annonceurs ou plutôt pour finalement en fait, ne pas laisser n'importe quelle entreprise voir son contenu mis en avant à côté de propos d'extrême droite. A été un gros problème autour de Twitter ces dernières années.
Donc non,
du tout.
Voyons.
Et donc, ben là, le problème, c'est que la personne qui a été nommée par Donald Trump en nouveau président de la FTC est un grand pourfendeur de la censure des big tech. Et donc,
alors, quand on dit censure, le propos est quand même un peu orienté
Régulation. Et en fait,
la modération. Oui.
Voilà, c'est un pourfendeur de la modération des grandes entreprises. Mais du coup, ça veut dire open bar pour tous les trolls, que ce soit tous les trolls d'extrême droite, que toutes les fake news, tout ça, c'est leur objectif, ce sera de dire vous ne pouvez pas interdire de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Quoi ?
C'est vrai que sur X, c'est vachement modéré.
Ben, voilà, sur Twitter, actuellement, la protection est déjà misérable parce que, justement, Elon Musk, dans son programme libertarien, veut promouvoir l'extrême droite.
Le problème, peut-être pas d'Elon Musk. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de critiques sur la modération de Twitter avant que ce soit racheté par Elon Musk. On ne met pas non plus tout sur le rachat de Twitter.
Non, mais le rachat de Twitter a quand même
été un gros
accélérateur à l'extrême droite. Je te rappelle qu'avant le rachat de Twitter par Elon Musk, Donald Trump avait été banni de Twitter à cause de sa tentative de coup d'État de janvier. Et donc là, Elon Musk, l'une des premières choses qu'il a faites, ça a été rouvrir le compte de Donald Trump. C'est quand même pas la même ambiance. Certes, il y avait des gros problèmes déjà avec Twitter avant, mais Elon Musk assume complètement les problèmes. Pour lui, c'est même pas des problèmes, c'est normal. La propagation de fake news et d'idées fascistes, d'idées d'extrême droite, c'est pas un problème pour lui.
On passe au sujet. Donc le paiement sans contact, sans passer par Google, Apple. Alors je suppose que tu parles du paiement via smartphone.
Tout à fait, oui.
Par carte ou là.
Oui.
Moi, une fois, je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai regardé les conditions d'utilisation de Google qu'il fallait. Non.
Ouais, alors, je ne sais plus où est-ce qu'on en est sur les commissions aussi payées à Google et Apple sur ces paiements-là. Mais oui, parce que moi, pour ma part, je n'ai même pas fait l'expérience, parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. Je préfère toujours séparer les choses. Mais donc, un libriste, donc l'éditeur du site osnews.com, a fait l'expérience de se dire ben, comment je peux faire si je veux payer sur mon téléphone, mais sans passer par Google et Apple.
Donc, ou Samsung.
Je ne sais plus comment c'est pour Samsung. Oui, je crois que c'est aussi sans Samsung. Et donc, ben, il a découvert que donc, sur les téléphones Android, et c'est un point qu'on va devoir creuser dans une future émission, je pense. Les téléphones Android, il faut bien comprendre que c'est quand même assez compliqué d'avoir un Android vraiment libre, vraiment dégooglisé. C'est vraiment très compliqué. Android n'est pas un système très ouvert, pour faire un euphémisme. Et donc, sur un Android sans aucun service Google, donc là, en cherchant, il a trouvé une solution qui consiste à passer par l'application Garmin Pay, mais encore d'une autre entreprise. Et moi, c'est le point qui me gêne le plus, c'est que finalement, il n'y a pas de norme, c'est pas une norme à implémenter, c'est pas une norme ouverte, c'est il y a que quelques gros éditeurs qui ont le droit de toucher au paiement. Donc il y a pas de solution, on ne peut pas avoir de solution libre là-dessus. Il y a pas de norme diffusée, il y a rien. C'est alors que la sécurité des cartes bancaires fait que normalement une solution libre auditable au milieu, ça ne devrait pas être un problème de sécurité.
Merci Pierre. Nous allons écouter un premier morceau de musique. Nous allons donc écouter Sun Status Amnesia. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'était Sun Status Amnesia. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre. Et campusil.com, c'est la deuxième partie des actualités. On va parler sécurité avec un petit accent Charles Pasqua absolument déplorable. On va parler du beurre et de l'argent du beurre. Des décodeurs d'images plus sécurisés, plus performants en restant. Plus sécurisés, plus performants. C'est vrai que c'est souvent un peu...
C'est rare.
Pas la quadrature du net, mais du cercle.
C'est ça. Donc, pour une fois qu'on a une bonne nouvelle là-dessus, autant en parler. Et c'est vrai que si ça se répand... Si vraiment il y a un effort qui est fait pour commencer à utiliser ça partout, ça peut être un certain avantage pour tout le monde. Déjà, je vais juste redonner un petit peu de... Pardon, désolé micro. Je vais redonner un tout petit peu de contexte. Les images qui sont envoyées, qui sont affichées sur l'écran, sont compressées, hein, que ce soit du JPEG, du PNG, du GIF, du... j'ai même pas envie de donner toute la liste sur l'intro. Et donc, parce que si une image brute, ça prend énormément de place, on compresse pour que ça prenne moins de place, c'est logique. Et il y a déjà eu plusieurs attaques, alors contre les iPhone, je sais plus, contre les Android, c'est certain, contre des PC, contre des Mac, contre... à peu près tout ce qui peut afficher une image, en envoyant des images corrompues, mais conçues pour exploiter une faille de sécurité dans le code qui fait le décodage d'image. Et c'est vrai que décoder une image, c'est une opération qui est, par nature, assez sensible. On ne s'en rend pas forcément compte quand on n'a pas les connaissances, mais en fait, c'est une opération qui est difficile parce que c'est des algorithmes qui sont quand même relativement complexes à implémenter. On manipule, mine de rien, un gros ensemble de données en entrée et en sortie. Et en plus, les données en entrée, on ne les maîtrise pas. Donc ça veut dire que tout ce que la norme dit, si la norme dit « oui, alors là, ce champ-là, derrière, il y a 4 octets pour indiquer telle valeur. » Oui, sauf que les 4 octets, ils sont contrés éventuellement par un attaquant. Donc il faut s'assurer que ça respecte réellement la norme. Et tout ça, tous ces tests-là, c'est des choses qu'on fait instinctivement. Le cerveau humain ne sait pas le faire. Il y a très peu de gens qui ont un cerveau suffisamment paranoïaque pour écrire du code réellement sécurisé, finalement. Et c'est là qu'interviennent des nouvelles solutions comme le langage programmation Rust, on en a parlé à plusieurs reprises dans cette émission, qui se veut un langage à la fois performant, mais qui rend très difficile l'écriture de code non sécurisé. Et donc là, on commence à avoir pas mal de tests autour de décodeurs, notamment d'images. Alors, c'est les images au format PNG qui sont très fréquentes sur Internet. Et donc là, ces décodeurs-là, on se rend compte qu'on arrive jusqu'à 50, voire 80% de gains en performance en plus par rapport aux décodeurs traditionnels, tout en ayant, a priori, un décodeur beaucoup plus sécurisé. Donc, c'est assez intéressant. Alors, honnêtement, personne ne se rendra compte que l'image apparaît 80% plus rapidement, parce que ça apparaît déjà très rapidement. Là où ça a un intérêt, c'est en termes d'économie d'énergie éventuellement, puisque si l'opération va 50% plus vite, ça veut dire que...
50% de processeur en moins.
Voilà. Donc, à suivre, est-ce qu'il commencera à vraiment y avoir une transition vers ce genre de solution ? Alors, je sais qu'il y a un format d'image, il me semble, sous Linux, où la transition a été faite vers du Rust. Je ne sais pas si ça va être à quel moment ça va être le cas pour les autres formats d'image, parce qu'il y a un peu de travail d'adaptation pour changer de décodeur. Mais ça reste une bonne nouvelle pour la sécurité, et ça serait bien de effectivement régler ce problème-là à la source,
mais
plutôt que de continuer à patcher.
Le décodeur, c'est une bibliothèque qui
est... Exactement. Parler, oui. LibPNG, LibJPEG, LibJPEGXL, LibVP, je ne sais plus quoi.
Donc il n'y a pas besoin de modifier tous les logiciels.
Si ta bibliothèque a la même interface. C'est la difficulté. Est-ce qu'il va y avoir la même, ou est-ce qu'il va y avoir des adaptations justement parce que l'interface de base a des comportements...
L'interface, et je t'envoie une image et tu me la... Enfin, là, comme ça,
c'est pas si simple.
De manière très naïve.
C'est ça, mais c'est pas forcément si simple. C'est pour ça qu'il peut y avoir besoin d'une légère adaptation.
Alors, au niveau sécurité, le télétravail, vous êtes au courant que ça s'est quand même beaucoup développé avec le Covid, et c'est en train de régresser. Les employeurs ont envie de faire revenir leurs employés, leurs salariés sur le travail physique.
Il y a la vague, il y a le recul de la vague.
Il y a le ressac. Donc, l'entreprise Free, hors prétexte ou non, alors je ne connais pas bien les détails, de la sécurité. Oui, leur connexion, en général, quand vous faites du télétravail, si votre boîte est un chouïa organisé, vous avez quand même un VPN, donc vous connectez au réseau de votre entreprise donc, de manière transparente, hein, c'est chiffré entre les deux. Donc visiblement, Free n'a pas confiance à ces solutions.
C'est ça. Et donc là, en l'occurrence, c'est pour les centres d'appel de Free. Et donc les syndicats, les employés signalent que, en fait... le gros problème, c'est que Free n'aurait pas mis en place des services de VPN réellement sécurisés. Et du coup, Free accuse ces services-là d'être à l'origine des files de, et des fuites de données récentes de Free. Et donc, ils estiment qu'il faut réinstaurer le enfin, il faut arrêter le télétravail.
C'est quand même surprenant ce genre d'argument de la part d'une entreprise qui est plutôt connue comme étant technophile. En tout cas, son chef d'entreprise et fondateur, Xavier Niel, est quand même plutôt quelqu'un qui a une certaine culture technique. Contrairement à d'autres qui sont peut-être plus financiers ou plus un côté gestionnaire. Donc, ça interroge quand même.
Après, moi, j'ai envie de dire, il y a une logique assez globale en France. J'ai déjà entendu beaucoup de gens utiliser l'expression « poser un jour de télétravail ». Ça, cette expression-là me choque. On pose un jour de congé. On ne pose pas un arrêt maladie, on ne pose pas un jour de télétravail. Il n'y a pas de « oui, je vais me la couler douce chez moi, je vais bosser à moitié ».
Poser, parce que je pense que souvent, si tu fais ça via le même outil que la déclaration de travail, tu dis « voilà, je déclare un jour de... ». Oui, bon.
J'ai entendu ça dans des entreprises où il n'y avait pas de logiciel où il fallait déclarer que tu étais en télétravail. Donc non, cet argument-là ne tient pas. Il y a vraiment une logique où beaucoup de gens qui...
Après avoir participé à des émissions anarcho-syndicalistes, Pierre est donc côté maintenant du patronat.
Ah non, je ne défends pas le patronat du tout. J'ai juste entendu des gens dire... Mais attention...
Télétravail, c'est pour travailler, messieurs, dames.
Non. Ok, je me suis mal exprimé.
Bah, c'est un peu l'impression que ça donnait, Pierre.
Oui, des managers, en fait, utilisaient cette expression-là. Effectivement, pas des salariés, justement. C'était à chaque fois, c'était des managers, c'était des...
D'où le quiproquo, Pierre.
Oui, d'où le quiproquo. Je suis désolé, je suis un peu fatigué en ce moment. Et, oui, donc des managers dire « oui, je pose un jour de télétravail ». Et c'est forcément, si on réfléchit avec le télétravail, oui, c'est pas du vrai travail, ben, ça marche pas. Et maintenant... Il y a des vraies problématiques de sécurité informatique sur le télétravail. C'est un sujet qui doit être pris sérieusement en compte, c'est un vrai sujet de réflexion. Ben, si les entreprises veulent pas le faire, c'est leur faute. Maintenant, je rappelle, le télétravail, c'est un désavantage pour les salariés, pour l'environnement, pour l'entreprise. Pour les salariés, ben parce que ça leur permet d'avoir beaucoup moins de temps de transport et d'être beaucoup plus reposés. Pour les entreprises, parce que ça leur fait des salariés éventuellement beaucoup plus productifs. Et pour l'environnement, parce que ça fait beaucoup moins de temps de transport.
On écoute un morceau de musique et après on retrouvera la dégeekalisation. Prend un petit peu plus le temps, c'est pas en fin d'émission. On n'a pas à se presser à vouloir faire les annonces de fin d'émission en quatrième vitesse. Donc on va faire une dégeekalisation détendue après un deuxième morceau de musique. Nous allons donc écouter tous ensemble Tatiana Litvin, Auld Lang Syne. Vous écoutez les codes des Gnous sur Radio Campus, en CDL6 à la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Before
C'était Tatiana Litvin, All Song Sign. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure, un petit peu en avance par rapport à nos habitudes, de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Sécurité par la pratique. Parlons des haches de mots de passe. Je pense que tu vas nous expliquer ce qui se passe quand on rentre son mot de passe et comment le logiciel, enfin le système derrière, sait qu'il est bon. D'ailleurs, il n'y a pas de jeu de mots cette fois-ci, Pierre.
Non, j'en avais pas trouvé pour celui-là.
Inspiration proverbiale.
Là, j'en avais pas parce que le sujet m'a énervé ces derniers jours. Mais voilà, je trouvais que c'était l'occasion d'en parler. Donc, parlons effectivement du stockage de mots de passe. Je parle du stockage de mots de passe sur le site, pas du stockage de mots de passe sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou autre. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, vous vous connectez sur linuxfr.org, vous tapez votre login, votre mot de passe. Comment qu'il est stocké le mot de passe chez linuxfr.org.
Alors, est-ce qu'on ne stocke pas les mots de passe en clair?
Voilà, alors on ne stocke plus les mots de passe en clair depuis très longtemps. C'est honnêtement, quelqu'un qui stocke un mot de passe en clair, c'est une faute grave. Et pour moi, ça quelqu'un qui fait ça, ça justifierait un licenciement pour faute grave, même s'il est patron de la boîte. Hein, aucune pitié pour quelqu'un qui fait ça, c'est la pire chose à faire. Et petit test, si vous voulez savoir, si vous faites « j'ai oublié mon mot de passe » et que le site est capable de vous donner votre mot de passe, c'est que le mot de passe est stocké en clair et c'est d'une dangerosité extrême. Donc les sites comme ça, mettez un mot de passe bien spécifique à ce site, vous utilisez le générateur de mot de passe aléatoire de votre Firefox et voilà quoi. C'est vraiment aucune confiance. Donc parlons plutôt du stockage correct des mots de passe, à savoir avec un hash. Donc qu'est-ce qu'un hash de mot de passe ? Je vais vous faire un petit exemple en prenant vraiment le cas le plus basique et je vous laisse imaginer la complexité qu'on peut introduire après. Imaginons, on veut stocker des mots de passe qui soient uniquement numériques, hein, que ce soit un nombre, parce que sinon c'est un peu plus chiant de vous faire la correspondance des lettres vers les chiffres, etc. Donc je veux stocker le mot de passe 1, 2, 3, 4. Et bien imaginons, pour stocker 1, 2, 3, 4...
Ne faites pas ça chez vous.
Ah non, il ne faut vraiment pas faire ça chez soi, mais c'est juste pour expliquer le concept de fonction... de hachage, qu'est-ce que ça fait? Imaginons, sur 1, 2, 3, 4, le hash, ça pourrait être 37. Alors ce hash-là, il est vachement facile, hein, j'ai additionné 1 et 2, puis 3 et 4. C'est un très mauvais hash. C'est pas du tout une bonne solution, c'est pas un hash qui est validé cryptographiquement. Mais on peut comprendre la logique, il y a plusieurs mots de passe différents qui peuvent faire 37, mais par contre, depuis 37, on sait pas quel est le mot de passe qui était correct. Alors la fonction est tellement simple que c'est pas dur de trouver un mot de passe correct à partir de 37. On peut faire 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3, il y en a plein. Mais voilà, le principe, le hash, c'est un extrait, c'est quelque chose qu'on dérive plutôt du mot de passe. Et la moindre petite variation dans l'entrée, mettons sur entre 1 million et 1 million 1, le hash serait complètement différent. La moindre variation est amplifiée.
C'est pour ça que c'est également utilisé pour vérifier l'intégrité.
Exactement.
D'un fichier, d'un logiciel, d'un texte, suffit qu'un caractère soit erroné, et en fait la différence saute aux yeux.
Exactement. Sauf que si on fait juste un hash du mot de passe, ça c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup avant. On faisait ça, aucun problème. Dans les années 90, on était dans les pratiques courantes, c'était déjà décrié, mais c'était encore une pratique courante dans les années 90 de stocker les hashes comme ça. Mais ça a un gros défaut, ça manque de sel. Qu'est-ce que c'est que le sel ? Eh bien, on va reprendre l'exemple. Imaginons, vous avez une base avec 1 million d'utilisateurs et vous stockez les mots de passe de chaque utilisateur avec un hash. Eh bien là, vous pouvez faire, en fait, vous prenez votre liste d'utilisateurs et de mots de passe et là, vous triez par hash du mot de passe. Eh bien là, vous allez voir que, tiens, j'ai ces 5 utilisateurs qui ont le même mot de passe. Puisque ces 5 utilisateurs ont le même hash. Ça, c'est une information très utile. Ça permet de savoir que c'est un mot de passe courant. Donc ça peut être password 01 ou quelque chose comme ça. Ça oriente considérablement la recherche du mot de passe si on souhaite le casser. Ce qui arrive lorsqu'il y a des fuites de données, évidemment. Un gros bisou aux dernières fuites, notamment chez Free. Hein, mais on n'en a pas parlé il y a 5 minutes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Et la solution qui se fait depuis 30 ans maintenant, je pense... à peu près, oui, au moins, c'est de mettre du sel. Ce qu'on appelle le sel, en fait, à chaque mot de passe, enfin pour chaque utilisateur, on va prendre une valeur au hasard, on va l'ajouter au début du mot de passe, et on va calculer le hash de tout ça. Et on va stocker le cell et le hash pour dire, bon, ben, ici, on a ajouté la valeur 4, 5, 6 au début du mot de passe. Et donc, si plusieurs personnes ont eu la valeur 4, 5, 6 en cell, alors, effectivement, on pourrait trouver des mots de passe qui ont été communs entre tous. Mais si on met un cell suffisamment grand, si on ne prend pas 4, 5, 6, mais on comprend une dizaine de caractères, tout le monde a un cell différent ou presque, on ne peut plus trouver les collisions de mots de passe.
Il ne faut juste pas que dans la même base de données, il y ait le hash et le cell.
Il faut le cell. Tu es obligé d'avoir le cell.
Oui.
Tu es obligé de le conserver. Ouais. Si tu n'as pas le cell, tu ne sais pas quelle est la valeur.
Il
ne
faut pas que l'attaquant ait accès au cell et au hash.
Si, ce n'est pas grave. Le cell fait partie du hash, en fait. Le cell, ce n'est pas grave. Le cell, ça permet juste de que tous les mots de passe soient hachés différemment. Ça introduit une complexité. Et c'est là où on va arriver sur comment qu'on casse des mots de passe. Parce que je trouve que c'est un sujet qui a assez évolué ces dernières années. Et donc, je vais vous parler d'une petite expérience que j'ai faite ces derniers jours. Ma carte graphique est assez vieille. Je l'ai achetée il y a 4 ans et je ne suis pas gamer. 4 ans et demi même. Et je ne suis pas gamer. Donc, c'est clairement pas la carte graphique la plus puissante du monde. Et pourtant, sur un algorithme de hachage qui était assez utilisé pour les mots de passe jusqu'il y a 10-15 ans, donc en l'occurrence le MD5, qu'il ne faut plus utiliser, il a été cassé, troué de toutes parts. Ma carte graphique est capable de calculer 1 million de hash par seconde. 1 million par seconde, c'est-à-dire que si vous avez un dictionnaire des 100 millions de mots de passe les plus fréquents, il lui faut 100 secondes pour calculer le hash de tous les mots de passe de ce dictionnaire. C'est très rapide. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, 50 000 mots de passe, hash par seconde, c'était déjà un bon score. Ma carte graphique, 1 million. Et les cartes graphiques les plus puissantes du marché, on est plutôt autour des 75-90 millions de hash par seconde. Imaginons, vous avez trouvé une entreprise lambda qui a stocké ses mots de passe en MD5 sans sel. Combien de temps vous faut-il pour tester tous les mots de passe de 8 caractères ou moins ? Si vous avez ma carte graphique, vous en avez pour une quinzaine de jours. Si vous avez une carte graphique très performante, ou au pire que vous payez quelques euros par heure pour louer une telle carte graphique chez un hébergeur, vous en avez pour 2-3 heures. Et vous aurez testé, pas les mots de passe les plus fréquents, vous aurez testé tous les mots de passe de 8 caractères ou moins. Autant dire que quelqu'un qui stocke aujourd'hui encore des mots de passe sans sel, ou des mots de passe non protégés comme ça, c'est une hérésie, c'est une catastrophe qui n'attend que de se produire. Parce que, des fuites de données, ça peut arriver.
Et la facture risque d'être salée.
Exactement. Surtout si vous n'avez pas mis de sel. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, utilisateur lambda ? Vous pouvez malheureusement pas faire grand-chose sur ça, à part essayer d'imaginer le pire. Et de se dire, est-ce que le site sur lequel je me connecte, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance ? Il n'y a finalement pas tant de sites que ça auxquels on peut faire confiance au point de se dire le mot de passe qu'il y a chez eux, il ne va pas fuiter. Et donc, on retombe sur la préconisation de base qui est d'utiliser des mots de passe différents sur chaque site. Et le cerveau humain est nul pour enregistrer des mots de passe. C'est pas humain, c'est pas faisable.
Parce que non seulement il faut un mot de passe par service, on est quand même nombreux à utiliser de nombreux services,
voilà,
plus des mots de passe en entreprise,
et qu'en plus,
il faut changer régulièrement.
Alors ça, c'est une très mauvaise pratique, mais beaucoup d'entreprises le font encore.
C'est
démontré comme étant une exécrable pratique. Mais donc, toujours est-il que la solution pour tout utilisateur, c'est de ne retenir qu'un seul et unique mot de passe, mais d'une complexité importante, pour une application en local, que ce soit votre navigateur web ou un gestionnaire de mots de passe, et que ce dernier, lui, génère des mots de passe aléatoires différents pour chaque service. Moi, pour ma part, c'est ce que je fais maintenant. Firefox génère un mot de passe différent sur chaque site où je vais me connecter. Et c'est tout. Je ne donne pas de mot de passe à un site directement parce que je...
Ce qui est compliqué, si tu dois devoir te connecter depuis une machine qui n'est pas la tienne. C'est un peu... Voilà,
je
trouve que c'est quand même la grosse limitation.
C'est la grosse limitation, effectivement.
Si tu as ton coffre-fort, et puis après,
tu peux avoir ton coffre-fort sur ton téléphone.
Il ne faut pas paumer le coffre-fort.
Il ne faut pas paumer le coffre-fort, il ne faut pas qu'il se fasse trouver. C'est la contrepartie.
Oui.
Mais aujourd'hui, la sécurité de votre... Si vous utilisez des mots de passe similaires sur différents sites, vous vous mettez en danger. C'est la seule conclusion qu'on puisse avoir. Le matériel moderne est quand même tellement performant que tester des millions, des milliards de mots de passe, ça coûte pas cher.
Et ça peut rapporter gros.
Et il suffit d'une fuite chez un hébergeur qui a pas fait bien son travail et qui a mal stocké les mots de passe, et vous pouvez vous retrouver dans une merde noire. Donc, essayez autant que possible d'avoir des mots de passe différents sur chaque site et de les stocker. Quelle que soit votre solution, même si vous utilisez, je sais pas, des iCloud Password ou autre, je vais pas inventer ces solutions-là. Je n'aime pas les solutions centralisées, que ce soit par Apple, Google ou n'importe qui. Je préfère une solution que je maîtrise. Mais si ça peut vous aider, vous, d'utiliser ces solutions-là, j'ai envie de dire, utilisez-les si ça vous permet de vous protéger. Parce que je pense qu'il y a moins de risques, on va dire, à utiliser ces solutions-là que de faire confiance à des milliers de sites internet avec des mots de passe que vous partagez sur tous ces sites.
Merci Pierre pour ce message de prévention, on peut l'appeler ça comme ça. On retrouve des actualités, on va parler logiciels, même des logiciels libres tant qu'à faire, après un troisième morceau de musique. Je suis tout perturbé maintenant à faire la digitalisation plus à la fin. On va donc écouter Andy Given, I Like It. Vous écoutez l'Écho des Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Pierre, j'ai lancé. Bonne écoute! C'était Andy Given, I Like It. Vous écoutez l'Écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Si vous attendez la fin de l'émission pour la dégeekalisation, c'est perdu. Vous écoutez le podcast. Voilà. Et le podcast est disponible à echodesgnous.org, comme d'habitude. On va donc passer aux nouvelles logicielles, matérielles en fait. Parce que bah, t'as le matériel dans le logiciel.
Oui, je l'ai caché. Tac. Je l'ai caché.
Voilà, la surprise du chef. Sortie du Raspberry Pi 500.
Ouais, celui-là, je trouve que c'est un mignon. Celui-là, ça mérite d'en parler un petit peu. Donc, les Raspberry Pi, pour rappel, hein, c'est une carte qui a été lancée il y a 10-15 ans de ça. Et donc, c'est une carte complète qui fait processeur, carte graphique, etc. Pour, à l'époque, là, c'était la modique somme de $35 et sur laquelle on fait tourner un Linux. Et donc, les Raspberry Pi, il y a eu le 400 qui est sorti il y a quelques années. Maintenant, le 500 est sorti. Donc, le Raspberry Pi 500 est basé sur la Raspberry Pi 5, donc qui est la carte, la dernière sortie, qui est la plus performante, avec des performances vraiment tout à fait raisonnables. Et donc, le Raspberry Pi 500, ben moi, je trouve ça très amusant comme projet. C'est un clavier intégré complet. Tout l'ordinateur est dans le clavier. Vous branchez le clavier sur un écran, vous branchez une souris sur le clavier en USB, et vous avez un PC complet. Alors, pas avec un processeur Intel ou AMD classique, avec un processeur ARM, mais sur lequel vous faites tourner un système Linux, et vous avez ben, tout ce qu'il faut. Vous avez le Wi-Fi, Ethernet, vous avez la possibilité d'aller sur Internet, d'avoir un navigateur web, de faire de la bureautique. Le tout pour... Alors là, le Raspberry Pi 500 est vendu pour $90. Alors, on ne fait pas spécialement de la promotion ici, mais c'est un produit qui utilise du logiciel libre, qui mérite le coup de jeter un œil pour ceux qui sont nostalgiques de l'informatique des années 80 et se souviennent des ordinateurs claviers à brancher sur la télévision.
Et vous pouvez acheter sur ecodegnu.org/buy.
Non, je déconne. Non, on n'a pas le droit en plus. Mais voilà, ce petite sortie matérielle qui mérite le coup d'œil. Si vous n'avez pas des besoins d'informatique très développés, je trouve qu'à $90, ça fait un système assez complet qui a l'air assez intéressant.
Richard Stallman, Linus Torvalds, ouais. Pardon. C'est même pas un troll.
Pas lui, l'autre.
C'est Jerry Pep. Donc, Linus Torvalds est pas content. Il a poussé un coup de gueule, on me dirait.
Pour changer.
Quoi dit l'habituel. Donc, il se scandalise de la classification des différentes architectures x86. Donc, c'est l'architecture que vous avez sur les PC, bah, type Intel ou...
x86-64.
Pardon. Donc, ils sont en quatre catégories, chacun. Parce que je voyais MMX sur l'IMX. MX SSE, c'est vieux, ça.
Ça, c'est vieux, mais en fait, voilà. Mais c'est encore dedans et c'est très, très
compliqué. En fonction des jeux d'instruction qui sont supportés, donc il y a une classification. Et Linus Torvalds, lui, est pas content.
Voilà. Donc, je fais un rappel d'histoire, tout d'abord. Donc, pour ceux qui achetaient des logiciels dans les années 80-90, vous aviez l'information, ce logiciel est complet. Quoi ?
Mac ou PC ?
Non, il n'y avait pas que Mac ou PC. PC 386 ou plus, 486 ou plus, Pentium ou plus. Il y avait aussi cette information-là sur les jeux.
J'avais déjà lancé des jeux, il était marqué Pentium alors que c'était un 486. Hein.
Oui, mais tous ne marchaient pas parce que justement, chacun de ces processeurs avait ajouté des nouvelles instructions. Donc des nouveaux mots, effectivement. Ben, si votre logiciel essaye d'utiliser une instruction... mettons, introduite dans le 586, dans le Pentium, sur un 386, ça ne peut pas marcher.
Ouais. Il fallait supporter les divisions qui ne marchent pas quand c'était pas sur Pentium. Hein.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu ce genre de requête de compatibilité, on va dire. Et on est dans un flou qui dure depuis 20 ans. Parce que ça fait 20 ans qu'on a juste compatible PC 64 bits ou plus. Sauf que ces processeurs-là, ils ont été introduits il y a 23 ans, je crois, si je ne me trompe pas. C'est en 2001 que ça a été introduit.
23 ans, oui, d'accord.
Et depuis, on a ajouté des tas et des tas et des tas d'instructions. On a ajouté, alors, le SSE3, SSE3, le SSE4.2, AVX, AVX2, il y en a plein. Et ce n'est pas des instructions qui servent à rien, c'est des instructions qui peuvent permettre de faire certaines opérations beaucoup plus rapidement et rendre les logiciels plus efficaces, plus performants. Le problème, c'est que aujourd'hui, on n'a aucune solution pour qu'un logiciel puisse dire « j'ai besoin d'un processeur qui gère ça ». Cette notion n'a jamais été introduite. Le mieux que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est des logiciels qui disent « j'ai besoin d'un processeur Intel de telle génération ou plus, d'un processeur AMD de telle génération ou plus ». Et c'est insupportable, c'est incompréhensible, et en fait on est sur un problème technique qui, je ne sais pas à quel point ça va avoir un impact dans le temps, mais ça crée une stagnation du côté du monde du processeur PC. C'est le jeu d'instruction, le langage du PC n'a pas le droit d'évoluer tant que ça. Et Linus Torvalds, Linus Torvalds a poussé un coup de gueule parce qu'il y a une tentative du côté du monde Linux pour nommer avec des V2, V3, V4, essayer de créer comme ça un numéro de version.
Mais artificiel.
Et c'est ça la cause du coup de gueule de Linus Torvalds, c'est que ça n'a aucun sens, puisque cette nomenclature n'existe pas. Et on peut encore aujourd'hui acheter des nouveaux processeurs qui ne sont pas vraiment V3. Ou ils sont V4. Mais, enfin,
ça ne correspond pas à ce qui est réellement vendu.
C'est ça.
Disponible.
Ça ne correspond pas à ce qui est disponible. Et finalement, ça ne marche pas. Le noyau Linux, en tout cas, Linus Torvalds s'y oppose fermement. Le noyau Linux n'utilisera pas cette nomenclature-là. Mais il y a une vraie question, c'est comment on peut faire pour distinguer les choses. Et là, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Et je ne pense pas que ça soit un problème aujourd'hui, mais demain, est-ce que ça risque pas de provoquer des problèmes, finalement, pour l'architecture PC, sachant que la même chose se profile pour l'architecture ARM, l'architecture qui est utilisée sur les derniers MacBook, et les téléphones et tablettes.
Merci Pierre, un petit point sur l'agenda à Monchaux, c'est pas très loin de Douai, un mercredi Linux, donc c'est le mercredi 18 décembre de 18h30 à 23h30, école de Monchaux, donc c'est dans la Pévèle.
Ils vont faire du Linux à le Monchaux ?
Oui, c'est vrai que non, c'est les Monchaux, c'est pas le Monchaux. Et pas de permanence de l'association Ch'tinux à la fin de ce mois, puisque le dernier mardi du mois tombe le 24 décembre, donc je pense que tout le monde, en tout cas, j'espère pour vous, vous serez en famille, entre gens que vous appréciez et que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, pour cette dernière émission de l'année, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et écoutez, tout notre soutien si vous êtes seul pendant ces fêtes de fin d'année, c'est pas forcément la période où c'est le plus agréable pour cette. Sauf si vous aimez être tout seul pendant les fêtes de fin d'année. Hein. Il n'y a pas de souci, on ne vous juge pas. C'était donc le 277e numéro de l'Écho des Gnous. Donc, pas d'émission le 22, nous serons en vacances. Donc, on se retrouvera donc le dimanche 12 janvier à 19h pour l'Écho des Gnous 278, première émission de 2025. Dans une semaine, vous retrouvez la deuxième ligne, donc une émission consacrée au jazz de la Nouvelle-Orléans. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chu Papimento qui nous succède comme d'habitude. Et Pierre et moi, nous souhaitons une nouvelle fois de très bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien.
Joyeux Noël. Bonne fête de week-end. Bonne fête de fin d'année. À bientôt.
Au revoir à tous. I'd rather fill my cup than try and swim for the shore. Oh, maybe say goodbye to living it down. Maybe say goodbye to living it down. Until my elbow go cold. William's a bastard son, but he